BFM Bourse, le club de la bourse.
Et avec nous en cette fin d'après-midi, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Rebonjour Véronique. Bonjour. Xavier Patrolin, président de Albatros Capital. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, c'est d'actualité. On a eu beaucoup de chiffres ces derniers jours sur le coût des programmes des uns et des autres dans les élections législatives. On a d'abord parlé de 100 milliards d'euros pour le Rassemblement National, 150 milliards pour le nouveau Front Populaire. D'abord, comment est-ce qu'on calcule ces chiffres, Véronique? Et est-ce qu'on peut leur faire confiance?
Comment est-ce qu'on calcule? On connaît, je sais pas, si on prend la proposition sur la TVA, on sait ce que coûte un point ou ce que rapporte un point de TVA. On connaît également ce que rapportent les différents impôts ou le coût. D'ailleurs, là, c'est souvent un peu plus complexe pour la retraite. Hein. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on voit les plus grandes marges d'estimation. Mais
si on regarde la TVA, elle est liée à la consommation.
Oui.
C'est forcément un calcul quelque part au doigt mouillé.
C'est au doigt mouillé, c'est toute chose égale par ailleurs, voilà, on va dire. Donc, et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à ces chiffrages ou ces exercices auxquels moi j'essaye de ne pas me livrer. Il y a des instituts qui sont beaucoup mieux armés pour ça d'abord, et puis parce que fondamentalement je doute, et je doute de quoi précisément? Parce qu'on le met pas dans le contexte. On peut chiffrer, hein, un point de TVA c'est tant, telle baisse d'impôt c'est tant, etc. Et puis on arrive à un total. Bon, and so what? Si on prend pas en considération l'impact économique des premières mesures, donc il faudrait déjà avoir un calendrier à peu près précis et être certain de ce qui va être annoncé et quand et comment, dans quel contexte international, quelle réaction des marchés avec quel risque sur les taux d'intérêt, éventuellement une réaction sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, peut-être un impact sur le marché immobilier, la reprise escomptée. Enfin, bon, tout ceci fait qu'on annonce des chiffres qui n'ont pas grand sens, me semble-t-il.
C'est forcément approximatif.
Et forcément, moi j'aime bien aux États-Unis par exemple, vous avez un institut indépendant qui chiffre les programmes et qui chiffre leur impact économique. Donc on a, voilà, tel programme, telle dépense ou je sais plus, voilà, et tel impact sur le potentiel de croissance à 10 ans par exemple.
Passer au tamis des mêmes économistes.
Et oui. Et donc là, bon, ça peut ressembler à quelque chose. Alors que nous, on s'arrête au chiffrage. Bon, le chiffrage n'a aucun sens si on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire essayer d'analyser précisément l'impact des mesures sur la croissance, sur donc la partie recette du reste.
On a vu, Xavier Patrolin, les marchés s'inquiéter la semaine dernière. Il y a quand même un énorme décalage entre les annonces des politiques, qui en période électorale ont toujours tendance à promettre la lune dans certains cas, donc des mesures qui peuvent coûter très cher, et puis la réalité, j'allais dire la froideur des marchés, qui eux s'interrogent sur le financement de ces programmes et sur l'impact possible en termes de dette.
Oui. Non mais, au fond, on parle de programme, le terme est totalement impropre. C'est une énorme plaisanterie. C'est une énorme plaisanterie puisque le 9 juin au soir, on a découvert à 21h02 que l'Assemblée nationale allait être dissoute. Donc j'imagine que tous les états-majors de parti ont découvert ça au même moment et n'avaient strictement aucun programme. D'ailleurs, c'est ce que l'on découvre. C'est que on pourrait même dire, si j'osais, que y compris la majorité feu, la majorité présidentielle, n'a pas de programme non plus.
C'est peut-être même celle qui le reconnaît le plus.
Peut-être. Et donc c'est très difficile de porter un jugement quantitatif. Par contre, on peut donner quelque chose de qualitatif. Au fond, c'est quoi les problèmes de la société, de l'économie française? À mon avis, c'est pas un problème de consommation puisqu'on a un déficit courant. Une économie qui a un déficit courant est par construction une économie qui consomme plus qu'elle ne produit, qu'elle n'épargne. Donc, c'est pas le problème numéro un de l'économie française. On a un déficit commercial, un déficit de la balance des paiements, on a un déficit budgétaire qui est le primaire, même pas le secondaire, mais déficit primaire qui est le plus élevé de la zone euro. Et donc, on a des propositions à 10 jours, ou maintenant moins de, à 6 jours du premier tour de l'élection législative, qui sont globalement des dépenses. Des dépenses. Alors après, on peut les quantifier puisque le programme de du nouveau Front populaire, c'est un retour arrière sur l'époque qui précédait Pierre Bérégovoy, puisqu'on retourne à des mécanismes d'indexation
des salaires sur l'inflation.
L'inflation, une hausse du SMIC de 16%, une hausse du point d'indice des fonctionnaires de 10%. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on est aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, on a un déficit primaire de 3,5%. Quelles que soient les mesures, que ce soit du Rassemblement National ou du nouveau Front Populaire, on peut s'attendre à ce que le déficit primaire en 2025-2026 se situe entre entre 4,5 et 5,5%. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement pour 2025 un déficit budgétaire, parce que là-dessus il faudra rajouter la charge de la dette, qui va caracoler entre 6 et 7 points.
Vous êtes en train de me dire en fait que le sujet principal c'est la dette?
Bien sûr. Bien sûr, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de totalement iconoclaste par rapport à nos pairs européens. C'est quelque chose qu'il y ait des problèmes de pouvoir d'achat pour une partie de nos concitoyens, je ne vais pas le nier, et qu'il faille adresser cela, oui, mais qu'il faille adresser cela typiquement par la mesure que prendrait le Rassemblement National, qui est une baisse de la TVA sur les prix énergétiques tous azimuts. Au fond, on arrose le désert avec de l'eau.
Même les plus riches.
Chacun sait que quand on arrose le désert avec de l'eau, ça produit rarement de la végétation, voilà. Donc ça ne marchera pas. Si on prend les mesures de Nouveau Front populaire, là on sait que les effets induits à horizon 12-24 mois, au-delà du matraquage fiscal, c'est un taux d'inflation plus élevé, un taux de chômage plus élevé, une perte de compétitivité des entreprises. C'est un reverse complet par rapport à ce qui a été fait depuis une dizaine. Moi, j'évoquais Pierre Périgovois. Donc, ce sont des programmes qui sont hors sol. Alors après, la question que tu poses, Stéphane, c'est de savoir si les marchés vont exercer une contrainte. Non, les marchés sont en stand-by. À mon avis, on est dans l'œil du cyclone. Il faut commenter l'évolution du spread au jour le jour. À mon avis, l'évolution du spread va véritablement commencer à partir de dimanche soir ou lundi matin.
Ouais. Alors les marchés ne font pas de politique. En revanche, les marchés s'inquiètent d'une possible dégradation de la dette, si je vous ai bien suivi. On assiste depuis quelques jours à un Rassemblement National qui retire les unes après les autres des mesures qui étaient, on va dire, emblématiques du programme de 2022. Et ça veut dire concrètement que le RN est prêt à annuler certaines dépenses qui étaient prévues et qui faisaient un petit peu affoler les compteurs. On était monté jusqu'à 100 milliards d'euros. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on assiste là cet après-midi à une baisse des taux sur le 10 ans français? Les marchés ont l'air rassurés par une perspective, puisque le RN est pour l'instant en tête des sondages, qui coûterait peut-être moins cher que prévu en termes de dette.
Alors, c'est vrai que depuis le 9 juin, la question est souvent posée. Est-ce que c'est un RN type Giorgia Meloni qui finalement se range très vite dans les normes européennes et montre finalement une grande capacité à gouverner, y compris sans provoquer de crise? Et ou est-ce que c'est autre chose? Les détails du programme ou des propositions sont plutôt rassurantes. Effectivement, le fait d'enlever des bonnes parties assez coûteuses font que les marchés se disent, tiens, bon, finalement, c'est bien plutôt du type Giorgia Meloni qui se
préfère. Il n'est plus question de nationaliser les sociétés d'autoroute, il n'est plus question de bloquer les prix des produits de première nécessité. Il y a quand même pas mal de mesures qui ont été annulées et qui potentiellement pouvaient coûter extrêmement cher.
Voilà, donc je pense qu'en même temps, politiquement, ça se comprend. Essayons de nous mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on ferait ? On a 2 ans et demi avant la prochaine grande échéance présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas se montrer comme les créateurs de crises souveraines. Donc on va plutôt être dans nos petits souliers. De toute façon, les électeurs élisent pas, votent pas le Front National pour des propositions économiques. C'est rarement le cas, c'est plutôt pour des propositions sociétales, idéologiques. Donc on va en faire un petit peu pour satisfaire tout le monde. Et puis on va surtout essayer de montrer qu'on est capable de gérer la France. C'est là qu'ils sont attendus pour préparer au mieux 2027. C'est comme ça que je comprends. Et du coup, je pense que c'est une vraie stratégie politique qui a son sens. Donc oui, probablement que le cas de figure, on ouvre les vannes des déficits publics ou des dépenses publiques, etc., non financées. Est assez faible finalement dans la probabilité qui se dessine.
Sans prendre position, Xavier Patrolin, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le RN paraît moins comme un épouvantail pour les marchés qu'il y a une semaine ?
Oui, probablement, si on doit établir une hiérarchie par rapport au nouveau Front populaire, probablement on peut établir cette hiérarchie. Mais moi, je m'oppose assez à la comparaison avec l'Italie. Au fond, pourquoi ? Parce que l'Italie, c'est quand même un pays, du point de vue budgétaire, qui est quand même très vertueux. C'est un pays qui dégage un excédent primaire depuis sa rentrée dans l'Union européenne, de près de 2 points de PIB.
Pour autant, il y a un parallèle qu'on peut faire sans trop se tromper. L'Italie est quand même tenue par sa dette et par les crédits européens.
Oui, tout à fait. Mais la France va avoir, quel que soit le gouvernement, qui émergera le 7 juillet au soir ou le lendemain, va avoir une phase de négociation extrêmement complexe avec nos pairs européens. Donc, dire qu'au fond, on peut balayer d'un revers de main, au fond, ce qui s'est passé le 9 juin, c'est un non-sujet et qu'on va pouvoir manœuvrer en ne proposant pas à la société de répondre à un certain nombre de ces questions, je pense que c'est une chimère. Donc on a une contradiction, on peut agiter la TVA sur les prix énergétiques, mais de toute façon les prix énergétiques allaient spontanément baisser. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure allocation du capital, de la dépense publique. Je pense que si 58% des ouvriers ont voté Rassemblement National ou 40% des employés ont voté Rassemblement National au soir des élections européennes, c'est que probablement ils sont dans l'attente de quelque chose, pas uniquement du point de vue symbolique et idéologique, mais ils sont dans l'attente de quelque chose. Et je ne suis pas sûr que la baisse de la TVA sur les prix énergétiques soit suffisante. Donc, les marchés peuvent faire hiérarchiser en termes d'enjeux, mais il ne faut pas qu'ils oublient que la situation en termes de déficit primaire de la France est très compliquée. Très compliquée. Et que, quoi qu'il arrive pour toute nouvelle équipe, ça va être très challenging par rapport aux pairs européens. Et si vous écoutez, moi j'ai écouté une partie de la conférence de presse de Jordan Bardella, manifestement, on rentre dans une phase, alors lui met ça sous le terme de négociation, mais qui va être quand même assez frictionnelle avec la Commission européenne et nos partenaires européens.
On a bien compris le parallèle avec l'Italie. On sait aussi que les entreprises n'aiment pas faire de politique, surtout lorsqu'il s'agit de partis extrêmes, et les marchés financiers non plus. Néanmoins, à vous entendre, j'ai le sentiment aujourd'hui que les milieux d'affaires se disent qu'entre deux solutions extrêmes, ils préféreraient le programme économique du Rassemblement National plutôt que le bloc Nouveau Front Populaire dans lequel on retrouve LFI avec des positions économiques assez radicales.
Oui, mais ce que maîtrisent probablement, mais ce que ne maîtrisent pas les marchés, c'est la conflictualité. Parce que la France, c'est pas l'Italie, même si l'Italie était un pays fondateur de l'Union européenne. C'est la conflictualité de la position française. Alors certes, on aura toujours le président de la République qui sera normalement en poste, mais la conflictualité qu'on va avoir, notamment avec notre partenaire allemand. Et là, les choses vont être quand même très compliquées. Je rappelle juste comme ça, cher Stéphane, mais que lorsqu'on négocie en Allemagne un accord de gouvernement, une plateforme de gouvernement, en général, ça dure entre un mois et deux mois, et c'est des négociations extrêmement touffues.
Parce que les Allemands ont l'habitude des gouvernements d'union, des compromis.
Oui, mais
en France, c'est pas vraiment dans notre ADN.
Probablement, mais je pense que du côté, j'ai pas lu la presse allemande tout récemment, mais je pense que du côté allemand, je pense que on est tombé de très haut quand on voit le contenu des programmes, que ce soit celui du Rassemblement National ou celui du Nouveau Front Populaire. Alors peut-être qu'on peut après caler une hiérarchie, mais moi je pense que il y a un acteur qui avance un peu masqué. Si j'ose dire, c'est Rassemblement National. Donc, il a démembré un certain nombre de choses, c'est possible, mais il peut remonter en charge ultérieurement. Ça dépendra notamment de la majorité ou pas majorité au Parlement. Et par contre, on a un acteur qui est avancé, je dirais, de manière assez claire et peut-être même un peu grossière, éléphant dans le magasin de porcelaine, qui est le Nouveau Front Populaire avec un reverse complet à 180 degrés. Donc effectivement, si l'idée est de dire est-ce que les marchés choisissent par cynisme une rectification à la marge de quelques degrés ou un virage à 180 degrés, oui, la réponse est tautologique.
On a beaucoup parlé des dépenses et de l'évaluation de ces programmes. Un point frappant, Véronique, on n'a pas parlé vraiment d'investissement dans ces programmes. L'investissement, ça prépare quand même l'économie de demain.
C'est effectivement un point qui interpelle nulle part. Nulle part on ne parle d'investissement et de l'effort d'investissement qu'il va falloir faire pour adresser, ne serait-ce que pour adresser les grands chantiers de demain. Et donc, autant je conçois qu'on ait un point où proposer des mesures de redistribution des revenus, et à mon sens indispensable, autant on peut pas omettre la partie investissement. Ça fait depuis la crise de 2008, et ça avait commencé un petit peu avant, la grande faiblesse de nos économies vient de l'insuffisance d'investissement productif, qui est peut-être liée au fait que à la captation trop massive des marchés financiers du capital. Donc il y a effectivement un effet d'éviction qui est très fort et que les politiques monétaires quantitatives ont considérablement accru cet effet d'éviction. Là, il y a un vrai sujet de société, un vrai sujet pour penser à la réallocation ou à l'attrait de l'investissement productif, sans lequel on n'ira pas loin. Alors, tant qu'on a le plan de relance européen et qu'on peut agiter la vaste idée ou toutes les sommes qui vont être dépensées dans ce cadre-là, bon, on camoufle la misère, on fait croire, mais en réalité, on est très pauvre à ces niveaux-là, et je pense qu'il y a un manquement généralisé sur ce sujet-là.
Xavier, vous êtes d'accord ? On ne parle pas suffisamment d'investissement dans ces programmes.
Comment voulez-vous parler d'investissement quand le principal item qui est mis en avant par les sondages, c'est le pouvoir d'achat. On organise la fiction du pouvoir d'achat. Et donc, à partir du moment où vous parlez de pouvoir d'achat, vous parlez très peu de création de richesse. Au fond, on a eu une stratégie de l'offre qui est mise en œuvre depuis un peu plus de 7 ans, une dizaine d'années, qui a été culbuté, qui a affronté deux chocs majeurs qui ont été le choc du Covid et la guerre russo-ukrainienne, et qui ont altéré pas mal de choses. Mais au fond, le processus d'éviction qui a lieu en France, qui est lié à la désindustrialisation, et le fait qu'on a beaucoup trop de dettes publiques. La dette publique se substitue à l'investissement en fonds propres dans notre outil, dans notre capacité économique. Et donc, forcément, si vous rajoutez, si votre programme, votre leitmotiv, c'est consommer plus, continuer à consommer, d'ailleurs consommer avec une bifurcation écologique, c'est un peu contradictoire dans les termes, vous arrivez à des, vous êtes au cœur de cette contradiction. Donc oui, l'investissement est compliqué parce que quand vous avez un État qui est en situation budgétaire avec un tel
déficit,
c'est qu'il y a, on essaye de compenser par le mécanisme du déficit le fait qu'on a une croissance potentielle qui n'est pas au bon endroit. Et donc voilà.
17h23 dans un instant, la Data Room, deux chiffres que vous avez choisi l'un et l'autre de commenter, pardon, mais vous l'entendez. Dernière ligne droite avant la clôture des marchés financiers, on retrouve Étienne Braque à Euronext. Étienne, on est toujours dans le vert, on progresse d'1,1%. Vous me disiez tout à l'heure que les volumes, en revanche, étaient plutôt anémiques.
En effet, puisqu'à 12 minutes du fixing, vous avez moins de 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice. Donc, vous voyez, c'est un début de semaine en douceur, une hausse à relativiser. Néanmoins, vous avez un CAC 40 qui est sur des niveaux de 10 jours, des plus hauts de 10 jours, au-delà des 7700 points, 7712 points. À noter que le secteur bancaire est en tête, idem pour les valeurs cycliques. Du côté de Wall Street, vous avez un Nasdaq qui fait une petite pause, comme vendredi, ça s'essouffle au niveau des records. Quand le Dow Jones rattrape son retard avec un gain d'un peu plus d'1%, Dow Jones qui continue de surperformer le S&P 500 qui gagne 0,3% après déjà 8 semaines dans le vert, et donc la Bourse de Paris qui commence bien la semaine, mais des volumes qui sont absents avant l'inflation américaine vendredi, jeudi soir le débat entre Donald Trump et Joe Biden, et puis vous avez également des élections législatives au Royaume-Uni qui arrivent à grands pas. Bref, l'agenda est chargé pour cette fin juin et puis surtout pour le mois de juillet.
Merci beaucoup Étienne, on se retrouve pour le fixing dans une dizaine de minutes. Avant de passer à la Data Room, une question Xavier Patrolin, mais comment est-ce qu'on navigue sur un marché marqué par l'incertitude ? Elle pourrait se prolonger bien au-delà du second tour des législatives. Si aucun bloc n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on risque de rester dans une période sans grande visibilité pour les marchés.
Oui.
Comment est-ce qu'on navigue sur ce marché ?
Cash is king.
Ouais.
Prendre vos profits.
En cash ?
Mais oui. Mais oui.
Quelle proportion ?
Je pense qu'on peut aller très loin aujourd'hui. On peut aller très loin. Pourquoi ? Parce qu'au fond... Sauf s'il y avait un miracle. Les miracles sont toujours possibles, mais ils sont rares. Vous devez anticiper dans votre stratégie d'investissement. Alors après, il y a les valeurs du CAC 40 et le reste, évidemment. Mais dans votre stratégie d'investissement, le fait que les conditions de financement de l'économie française vont se dégrader structurellement. Et même peut-être les conditions de financement de la zone euro vont se dégrader par contagion. Et donc ça veut dire de la prime de risque. Surtout les classes d'actifs, quels que soient les scénarios au 7 juillet au soir.
On s'est fait peur un petit peu la semaine dernière, on est monté jusqu'à 70 points de base sur le spread de taux, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne.
Mais on est un passager clan. Enfin, comme vous dites, on s'est fait peur.
On était loin des niveaux enregistrés au moment de la crise de la dette, mais on était au même niveau de spread
au
moment du Covid.
Faire bondir. Mais on est un passager clandestin de la zone euro. On est un passager clandestin de la zone euro.
Mais on n'est pas le seul.
Si, on est le seul. Parce qu'on est celui qui a un déficit primaire qui est le plus élevé de la zone euro. Donc, ça, pour l'instant, on a bénéficié d'une clémence des marchés parce que la France n'a jamais fait défaut depuis plus de deux siècles. Et il y a de bonnes raisons. Mais on rentre, ce qui est en train de se passer en termes institutionnels, en termes politiques, est quelque chose qui surprend tous nos partenaires. Alors il faut être du côté de l'Arkansas pour pas mesurer l'impact. Y voir ça avec distance et dire au fond ça va rentrer dans l'ordre. Non, il se passe quelque chose de très important dans le Royaume de France. Et donc, je pense que vous revenez à la question sur la stratégie d'investissement. Je pense qu'il est avoir comme hypothèse de départ que les conditions de financement de l'économie française et de l'économie européenne vont se dégrader et que les primes de risque aujourd'hui sur la classe action, je ne parle pas des prix de l'immobilier, sont pas au bon endroit. Oui, ça c'est à mon avis. C'est donc faire du cash aujourd'hui pour les mois qui viennent, qui vont rester tempétueux quel que soit le résultat du 7 juillet au soir, ça me semble être une bonne stratégie.